Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Quand tu es à ta place, que tu écoutes ton cœur, tu ne manques jamais de rien. Je l'avais bien intégré, ce concept. Cette fondamentale loi de l'univers ne m'a plus jamais quitté. J'avais effectivement cessé de faire la manche et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. À Moissac, alors que je lisais tranquillement devant la cathédrale, une petite mamie du coin, heureuse de pouvoir causer avec un pèlerin, me lâcha 10 balles sans même qu'elle ne sache que je n'avais plus rien en poche, ce qui me permit de dormir au camping municipal. Le lendemain, à Lectour, je fus invité par une paroissienne à dormir au presbytère servant également de donativo. Arrivé à Condon, à peine franchi la porte de la cathédrale, je me suis fait alpaguer par une dame d'un certain âge, m'invitant à rejoindre son stand d'accueil pèlerin pour tamponner ma créanciale. Rapidement, elle me demanda si je savais où passer la nuit. À peine eussé-je le temps de lui répondre que non, qu'elle m'invita à passer la nuit chez elle. Cette dame de plus de 70 ans vit dans une charmante maison de ville, en compagnie de son amant américain, âgé de 92 ans. Il me faisait penser à Lady M et Pompilius du roman « La vieille qui marchait dans la mer » de Frédéric Dard, signé San Antonio. Sa vie fut remplie d'aventures rocambolesques et de voyages. Le lendemain, ou après m'être paumé un long moment sans comprendre comment, vu que je suivais le balisage, j'ai fini par atterrir à Éose, chez Pauline. Après avoir eu une révélation divine lors de son pèlerinage, elle a ouvert un donativo, où elle accueille chaque jour des pèlerins dans sa maison. J'y appris, lorsque d'autres pèlerins expliquaient s'être également paumés, qu'un exhibitionniste sévissait dans la région et s'amusait à détourner les pèlerins en modifiant le balisage afin de leur offrir une vue imprenable sur sa bite. Pauline disait qu'il n'était pas bien méchant et conseillait de le complimenter sur la beauté de son service trois pièces. « C'est ce qu'il faut faire avec les pervers, disait-elle. Ne pas s'offusquer, complimenter et vous êtes tranquille. » Drôle de point de vue, mais ça se tient. On est aussi en droit de se demander pourquoi les autorités n'ont pas encore arrêté ce drôle d'oiseau. Peut-être s'agit-il d'une animation locale, on ne sait pas. Pauline tenait à ce que je dorme au chaud pour ma prochaine étape. Elle téléphona à Ilia, un ami qui accueille régulièrement des pèlerins en sa demeure. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers Nogaro, où j'y fus accueilli dans la famille d'Ilia. Le soir, vigile de la Pentecôte, ils me conduisirent à la messe qui était célébrée par l'évêque. Celle-ci se déroulant dans un village un peu éloigné du chemin, l'évêque insista pour que je dise un mot à l'auditoire à la fin de l'office. J'ai passé la messe à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir dire. Quand le moment vint, après un très court résumé de mon chemin, j'invitai l'assemblée à cesser de croire en Dieu. Ce qui, de prime abord, fit bondir l'homme d'église ainsi que quelques grenouilles de bénitier. Il faut cesser de croire en Dieu. Il se branle à deux mains que l'on croit en lui. C'est facile de conduire sa vie en pilote automatique, de se rendre à la messe le dimanche et proclamer que l'on croit en lui. Mais Dieu n'a pas élu domicile dans les églises. Croyez-vous en vous? Croyez-vous en votre potentiel divin, en votre divinité? Il est grand temps d'arrêter de croire en Dieu et de passer à l'action. C'est vivre Dieu qu'il nous faut. Si nous sommes tous là aujourd'hui, vigile de Pentecôte, c'est que nous croyons en l'Esprit de sainteté, qui nous a tous touchés, qu'il vit en nous. Ne serait-il pas temps de laisser s'exprimer, de vivre chaque instant dans la création divine, que chaque geste, chaque pas, chaque acte, chaque pensée soit conduite par le choix le plus élevé, celui de l'amour? Car c'est bien cela, vivre Dieu. Conduire sa vie selon sa volonté ne veut pas dire renoncer au matériel, mais ne pas en faire une priorité. Ne veut pas dire renoncer à la joie, mais la vivre. Soyons celui qui est, et non celui qui voudrait, qui aspire, ou pire encore, celui qui aurait voulu. Lui laisser les commandes ne veut pas dire s'abandonner, mais abandonner toute volonté de contrôle pour laisser s'exprimer notre âme qui n'aspire qu'à nous conduire vers l'amour inconditionnel, pour nous et pour les autres. Lui laisser les commandes ne veut pas dire s'abandonner, mais abandonner toute volonté de contrôle pour laisser s'exprimer notre âme qui n'aspire qu'à nous conduire vers l'amour inconditionnel, pour nous et pour les autres. Écoutons cette petite voix, ces signes, cet esprit de sainteté qui, à chaque instant, nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes et nous conduit à créer un monde meilleur. faire briller sa parcelle de vie, nettoyer et illuminer son espace. Si chacun s'y emploie, car nous en avons tous la possibilité selon nos capacités, alors nous vivrons Dieu chaque seconde et serons en communion parfaite, car c'est bien cela que nous faisons lorsque nous communions. Nous reconnaissons être liés les uns aux autres à travers le divin. Pas après la mort, mais à chaque instant, ici et maintenant et pour l'éternité. À la sortie de l'église, les encouragements moraux et financiers à poursuivre mon chemin furent nombreux. Les pleurs aussi. L'évêque m'invita à rejoindre son séminaire si ma vocation venait à se confirmer. En parlant de confirmation, je partis juste après celle de la fille d'Ilia, le jour de Pentecôte. J'atterris à Ers-sous-la-Dour, où je fis la connaissance de Maureen, dont les épaules avaient également pris l'habitude d'essuyer les larmes des pèlerins. Elle avait un cœur en or. Pleine d'amour, elle égayait son passage. Nous avons fait un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que je décide d'aller un peu plus loin qu'elle. Le vent m'appelait à Arzac et me conduisit sous le toit de la maison paroissiale où je pus dormir sur le palier d'un escalier extérieur abrité par l'avancée du toit. Je compris quelques minutes après m'y être installé pourquoi le vent m'avait soufflé de venir là. C'était pour Daniel, un dentiste à la retraite, très en colère et souffrant de solitude. Nous avons passé une bonne partie de la matinée à faire revenir son sourire perdu depuis des années. Mission accomplie. J'ai marché jusqu'à Arthès de Béarn. J'y fis la connaissance de David qui avait trouvé 10 balles par terre, me les a tendues en ayant entendu parler de moi. Il s'était dit que j'en aurais besoin. Le lendemain, j'arrivais à Navarinx. La Providence me fit rencontrer le père Ludovic, avec qui j'ai pu partager le vertige de mon chemin, de ses rencontres et de ses miracles. Nous avons parlé de ma vocation et ce fut le premier prêtre à ne pas m'avoir fait du racolage pour rejoindre les rangs. Il avait pris soin de m'écouter, de me conseiller et de conclure en sentant effectivement une forte vocation en moi, mais que je n'étais qu'à la moitié de mon chemin et que des choses encore pouvaient changer. À ce jour, je crois qu'il n'imaginait pas à quel point il avait raison. Je suis resté un jour de plus à Navarinx. Ludovic m'avait proposé d'assister au spectacle de l'Emmanuel School Mission, une bande de jeunes du monde entier qui consacrent une année de leur vie aux autres. Ce fut l'occasion de revoir Maureen et de rencontrer Jean-François et Caroline, deux belles personnes que j'ai été amené à revoir plusieurs fois sur mon chemin. Avant de reprendre la route, je suis passé saluer le père Ludovic, qui me souhaitait un bon chemin et pria pour que je devienne un bon père. Ou un bon père. Une fois de plus, Le vent m'indiquait une voie différente du GR66. Je sentais, pour une raison qui m'était inconnue, qu'il me fallait aller à Saint-Palais. Saint-Palais se trouve sur le chemin, mais par la voie du Vézelay, et se situe à 25 km de Navarinx. Arrivé sur place, je me demandais bien pourquoi j'avais dû m'y rendre. Rien, nada, que de chipot de balle, une ville, des voitures, j'ai erré une petite heure, tout en étant convaincu que c'était bien ma place. Avant d'arriver sur une petite place où je me fis héler par deux gus attablés à la terrasse d'un troquet. Ils m'avaient aperçu à Arthez et furent interpellés par l'aura que je dégageais, d'après eux. Ils faisaient le chemin en tronçon à raison de 15 jours par an. Ils étaient à la veille de leur dernière étape et extrêmement tristes de devoir, une fois de plus, quitter le chemin. Rentrer chez eux sans avoir rencontré la lumière de leur chapitre, comme ils disaient. Ils m'interrogèrent sur les raisons de mon chemin, puis sur ma foi, et fondirent en larmes lorsque j'eus terminé de répondre à leurs questions. Convaincu que j'étais celui qu'ils attendaient pour clôturer leur chapitre, ils étaient très émus de m'avoir à leur table. Il m'a fallu un long moment pour leur faire comprendre qu'ils étaient eux-mêmes la lumière de leur chemin. Il faut dire qu'ils se considèrent comme de véritables connards, à la fois ridiculement petits et nantis d'une vie vide de sens. C'étaient pourtant de belles personnes, ils étaient incapables de le voir tellement ils avaient une piètre opinion d'eux-mêmes. Ils avaient foi en Dieu, mais estimaient ne rien faire pour lui, ne pas lui accorder assez de place dans leur vie. Je leur expliquais être convaincu que Dieu n'attend pas une dévotion sans acte, qu'il ne souhaite pas particulièrement que nous passions nos vies à prier, inactifs, les bras ballants ou en croix, mais que nous le vivions. Et cela signifie agir, ici et maintenant, chaque instant, sur terre, à œuvrer pour le rendre beau, tendre la main à son prochain, selon ses capacités. Exactement ce qu'ils étaient en train de faire avec moi. Ce qu'ils avaient fait en œuvrant pour des ONG, en créant des emplois rémunérés au-dessus de la moyenne du marché. « Après tout, leur dis-je, ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. C'est aussi ça, avoir la foi. » Je leur offris une croix de ma conception en leur précisant qu'elle ne doit pas être considérée comme un souvenir de moi ou de cet instant, mais comme celui de cette belle amitié qui les lie et qui les mène à la meilleure version d'eux-mêmes. Ils se mirent à chialer de rechef et recommandèrent une bouteille de rosée. Trop cuit pour continuer jusqu'à Ostabat, ils commandèrent un taxi, m'enrôlèrent avec eux et m'offrirent le gîte pour la nuit. Ce fut une nuit difficile. Le repas était trop lourd d'une part, mais je savais surtout que le lendemain j'arriverais à Saint-Jean-Pied-de-Port, la dernière étape avant l'Espagne. J'allais devoir traverser les Pyrénées et j'étais bien loin de me douter que mon chemin allait totalement basculer. Comme si la France n'avait été que la gestation de mon pèlerinage avant que je ne sois expulsé des montagnes comme d'un vagissement pour tout recommencer. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.